Travail en vidéo.
Alors les abeilles ne se perdent jamais. Parce qu'elles ont en elles-mêmes quelque chose qui leur permet de se repérer en permanence pour retourner à la ruche. Ce qui d'ailleurs cause des problèmes, et c'est pour cela que, alors je ne fais pas d'écologie hein, gratuite, mais voilà, que certains pesticides leur enlèvent cette particularité, donc elles se perdent, elles ne retournent pas à la ruche et finissent par mourir, entre autres. Il n'y a pas que cela, mais ça en fait partie. Mais voilà, il y a quelque chose en elles. Donc, ce titre général qui nous tient depuis hier matin, l'Église, la ruche du Seigneur. Je rappelle que nous avons vu en première partie les abeilles, toutes abeilles, mais différents services. Et nous avons essayé de voir comment la diversité des membres que compose la ruche du ZES, mais aussi les ruches ailleurs, de toutes ces églises locales, permettent d'être complémentaires et de servir l'œuvre de Dieu pour les uns et les autres. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur une particularité importante, mais aussi difficile, qui est à maîtriser dans notre corps, la mouche qui tombe dans le miel, et nous avons parlé de la langue, en essayant de voir comment cette langue et combien cette langue peut être terrible dans le corps de Christ, lorsqu'elle n'est pas liée au Saint-Esprit. C'est pourquoi ma troisième intervention, intitulée « Construire une alvéole de miel spirituel », va porter sur ce qui m'est apparu comme la grande force pour s'opposer aux méfaits de la langue, c'est le pardon. Et comme je l'ai montré, la langue, ce petit membre est difficile à maîtriser, mais pas impossible, puisque le Seigneur nous donne les possibilités de le faire. Le pardon est aussi quelque chose de difficile à mettre en œuvre, mais pas impossible, bien évidemment, puisque Dieu nous demande de le faire. Donc s'il nous demande de le faire, c'est que cela est possible. Et je pense à ce texte tiré de l'Épître de Paul aux Éphésiens qui nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Et c'est là que nous avons le lien avec la troisième partie, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui montre que ce qui est problématique et qui pourrait être mis en œuvre par la langue dans ce texte peut être stoppé, arrêté, annulé, transformé par l'attitude que Paul met en avant à travers le pardon. Alors bien évidemment, c'est un énorme thème, celui du pardon. Il aurait pu être le week-end dans son ensemble et encore, on n'en aurait pas fait le tour. Donc il a fallu que je cible. Et j'ai ciblé sur un texte particulier qui m'a frappé. C'est une parabole. Voici ce que dit Jésus dans cette histoire vraisemblable pour amener cette vérité spirituelle dans le thème du pardon. Et je lis ce texte. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Avant de voir un peu en détail cette parabole et d'en tirer les leçons, j'aimerais que nous regardions dans quel contexte elle est dite par Jésus. Parce que, et c'est important de faire attention au contexte dans lequel un texte est lu, sorti, de manière à ne pas en faire une application qui serait contraire à la pensée du texte lui-même. Et comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, et surtout dans les paraboles, c'est le contexte qui permet de savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir et interpréter certains termes de cette parabole ou l'histoire en général. Et nous allons voir très clairement que c'est bien le thème du pardon qui ressort de cette histoire vraisemblable que Jésus raconte. Car il écrit juste avant la parabole: Si ton frère a péché, va. Reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, à la ruche. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable. Voyez le lien. Et qu'est-il écrit à la fin de la parabole? En conclusion, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà, le cadre est placé. La parabole comprend bien l'idée et le thème du pardon qui a été amené par cette parole de Matthieu. C'est pourquoi, enfin Jésus, qui raccroche quelque part à ce que Pierre lui a dit. On comprend alors que Matthieu introduise la remarque de Pierre par le « alors », parce que Pierre, lui, a été frappé, surpris par ce que Jésus disait sur le fait d'aller voir son frère, de discuter, etc., etc., et d'avoir ce processus de réconciliation à travers la confession, qui doit aller même jusqu'à l'église si jamais les choses ne se passent pas dans le privé. Nous voyons donc comment tous ces passages sont liés les uns aux autres et permettent de mettre en lumière la parabole qui sort, qui tranche quelque part et qui est donnée par Jésus pour expliquer et peut-être, j'allais dire, être un peu plus concret sur le but du pardon et de la manière dont nous devons vivre ce que nous avons vécu en tant qu'enfants de Dieu par le pardon. Nous voyons aussi comment Jésus, et on va le voir dans la parabole, fait le lien entre le pardon reçu et le pardon que nous donnons et que nous accordons. Il y a un lien très étroit entre l'un et l'autre, car l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas un équilibre, si ce n'est pas le cas. Alors, par cette parabole, Jésus va aller assez loin et il nous fait comprendre que le pardon n'est pas une option. L'expression que j'entends, je pardonnerai quand j'en aurai envie. Je pardonnerai si je veux. Ça, ce sont des expressions que l'on entend, que l'on devrait entendre uniquement envers ceux qui ne sont pas abeilles dans la ruche. Mais pas des enfants de Dieu. Car le pardon est bel et bien un impératif qui doit absolument sortir des schémas calculateurs, que Pierre d'ailleurs met en avant naturellement. Et on ne va pas lui jeter la pierre. Que sait-il Pierre, particulièrement sur le pardon? Nous, nous avons les paroles de Jésus, certes, écrites, lui, il les avait uniquement entendues, peut-être plusieurs fois. Et là, il en entend une qui le surprend. Puis nous avons les écrits de Paul, en particulier, qui rappellent l'importance du pardon. Donc nous sommes quelque part moins excusables de ne pas comprendre, de ne pas saisir. Pierre, lui, il est là devant un fait. Et il questionne Jésus parce qu'il est frappé. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lorsqu'il a entendu, tu iras voir ton frère dans le privé, lorsque tu auras un conflit avec lui, et tu feras en sorte que vous vous raccommodiez. Sinon, tu en parles à l'église. Ouais, mais Seigneur, combien de fois je vais faire ça? Hein? Jusqu'à 7 fois. Parce que il y a une parole de Jésus dans les évangiles qui est certainement dans la chronologie avant ce texte de Jésus et cette interpellation de Pierre, où Jésus parlait déjà de pardonner jusqu'à 7 fois. Il y a une citation qui est donnée. Et peut-être que Pierre s'en est souvenu. Tu nous as dit que. Alors c'est bon, jusqu'à 7 fois. Pierre va penser donc que pardonner jusqu'à 7 fois semble peut-être être pour lui la limite du raisonnable. C'est bon, quoi. Après ça, on a fait tout ce qu'il fallait. 7, bien évidemment. Peut-être pense-t-il à cette perfection, comme le chiffre 7 est un chiffre dans la parole assez particulier. Et la réponse de Jésus est cinglante. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors j'ai fait le calcul. 490 fois. Alors si Pierre avait été de mauvaise foi, il aurait peut-être pu répliquer au Seigneur, ah, ok, alors à la 491e, je suis libéré de pardonner, puisque tu me dis 7 fois 7. Mais on comprend ce que Jésus veut dire. Parce que quelque part, celui qui fait des comptes à ce point, il est malhonnête quelque part. Il est de mauvaise foi et il montre que pour lui, il ne pardonnera pas. Il va aller jusqu'à ce moment-là où, légalement, entre guillemets, selon la parole de Jésus, il en sera libéré. Et ce n'est pas du tout l'esprit de l'Évangile. On est d'accord. Combien entendons-nous ou nous surprenons-nous peut-être à nous dire, ça fait longtemps que, ça fait 10 fois, 20 fois que je lui ai pardonné, ça va quoi, c'est bon, maintenant j'en ai ras-le-bol quoi. Ça peut se comprendre charnellement, mais spirituellement, ça ne tient pas. Jésus, à travers ce 7 fois 7, nous dit, tu pardonneras tout le temps. Prenez garde, dira Jésus, à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, ben c'est le texte que je citais tout à l'heure. Je n'avais pas pensé, j'ai oublié que j'avais mis 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. C'est à ce titre-là que Pierre doit dire, mais jusqu'à 7 fois, puisque tu nous dis cela. Nous discernons aussi combien la patience est à l'œuvre, car le pardon est d'une certaine manière synonyme d'épreuve. Ce n'est pas facile de pardonner. Et quand on va dans cette pensée du pardon, c'est qu'on a subi quelque chose. Et généralement, c'est une épreuve. Et Jacques dira que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Et derrière ce terme épreuve, il y a tout. Mais il y a aussi les conflits et le pardon, qui à lui-même peut être une épreuve. Et ça m'est arrivé, moi, de devoir aller pardonner et de le faire avec crainte et tremblement. Et c'était une épreuve. Alors, je fais une remarque. Le pardon n'efface pas automatiquement les souvenirs de la souffrance endurée. Il nous est certainement arrivé un jour ou l'autre de nous rappeler le mal que quelqu'un nous a fait, ne serait-ce qu'en le revoyant quelque temps plus tard. J'ai eu des conflits avec des personnes, personnellement, qui ont amené des séparations. Et je me souviens avoir dû pardonner comme ces personnes m'ont pardonné. Parce qu'on a peut-être dit des choses qui ont dépassé nos pensées, etc. Mais lorsque je revois ces personnes, ça fait maintenant plus de 30 ans, je pense à ce conflit en particulier, lorsque je revois ces personnes, je n'ai rien oublié de tout ce qui s'est passé dans mon esprit, dans mon intelligence, parce que ça s'est gravé. Mais par contre, je n'ai plus aucun ressenti, aucun ressentiment de haine ou de rejet, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? La mémoire l'a gardée, mais le pardon a libéré et a enlevé tout ce qui était ressentiment, mauvais. Et ainsi, on peut à nouveau parler, partager. Peut-être que la confiance aura été erronée. Peut-être qu'on aura moins envie de travailler ou de collaborer avec ces personnes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne les aime pas. Quelque chose a pu se briser, se casser, mais ça n'empêche pas que la relation est là. Il est naturel, donc, d'avoir ces souvenirs. Mais les souvenirs que nous avons, s'ils continuent de polluer notre vie, s'ils continuent d'être négatifs, d'être mauvais, de nous faire voir une personne ou avec des ressentiments mauvais, alors le pardon n'a pas été complètement donné. Car il libère le pardon, totalement. C'est une puissance extraordinaire. Alors le serviteur de la parabole devait à son maître, venons-y, 10 000 talents. Si l'on considère qu'un talent équivaut à 6 000 drachmes, cet homme devait environ 25 millions d'euros. Moi, je ne dormirai pas, hein. L'endettement est colossal. Il est abyssal. Et Jésus veut faire comprendre à travers cela qu'il est, allez, on va dire, impossible à cet homme de rembourser. Alors, on peut penser, on peut imaginer et se dire, mais comment a-t-il pu aller jusqu'à cet endettement? Comment son maître a-t-il pu accepter qu'il s'endette autant, etc. Ce n'est pas le but de la parabole. Le but de la parabole pour Jésus est de bien montrer l'impossibilité de l'affaire. Qu'importe comment les choses sont arrivées là. C'est une parabole, n'oublions pas. C'est-à-dire un récit vraisemblable pour illustrer une vérité. Donc, c'est un récit qui peut être vrai, mais qui est complètement fou, qui est peut-être même exceptionnel, mais qui est là. Alors la réaction immédiate de ce maître est bien sûr d'ordonner qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. Mais quand bien même, il ne récupérera pas tout ce qu'il lui devait. L'exagération du Seigneur est volontaire. Elle fait référence à quelque chose de concret pour les auditeurs et pour Pierre en particulier, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre conscience de l'énormité de la dette et cette impossibilité à la rembourser. Il faut que ce soit bien ancré dans l'esprit. Et alors, aussi surprenant que cela puisse être, le serviteur, dans l'histoire, va se jeter aux pieds de son maître et le supplier d'avoir patience envers lui. « Je te paierai tout, mais mon œil !» Non, tu ne paieras pas. Il essaie de gagner du temps. Mais ça ne sert à rien. En même temps, on peut imaginer que cette parole de ce serviteur est peut-être d'une certaine manière, de se ficher un petit peu du monde, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas rembourser. Et malgré cela, le créancier prend pitié de lui. Ça a marché. Ses pleurs, ses larmes, je n'ose pas dire de crocodile, mais ses larmes ont touché le cœur de cet homme. Qui va lui remettre cette dette? Il s'y assoit dessus. Terminé. Tu ne me dois plus rien. On imagine alors le poids qui s'enlève de ses épaules. Vous êtes arrivé certainement, plus ou moins dans votre vie, à la fin d'un crédit. Votre maison, ou une voiture, je ne sais pas. N'est-ce pas? Quand on se dit, ça y est, c'est le dernier mois, on a tout payé, quelle libération, n'est-ce pas? On a l'impression d'être plus léger. Le mois prochain, on ne payera plus. Voilà, c'est ce qu'il vit, cet homme, même s'il ne remboursait peut-être pas du tout, d'ailleurs, lui, hein. Alors, tout pouvait être dit, mais c'est sans compter sur un événement aussi inattendu que scandaleux. Lorsqu'il s'en revient allégé de ce poids, il se retrouve dans la situation de son maître, lorsqu'il croise un ami qui lui doit de l'argent à son tour. Et savez-vous combien il lui devait? 100 deniers, soit approximativement 4 mois de salaire. Donc là, on est dans une possibilité de remboursement. Pas de souci, comparé à l'autre. Et là, on voit la disproportion des chiffres, qui est volontaire de la part de Jésus, pour bien mettre en avant la situation scandaleuse de cet homme. Car ce qu'il fait, il empoigne son créancier, son débiteur, il lui dit, paie ce que tu me dois. Quelque part, oui, il ressort de son maître, il n'a plus de dettes, mais il n'a peut-être pas de sous. Alors il se dit, ah, là, il y a des sous qui peuvent rentrer, là. Allez, tu m'en dois, tu me les donnes. Et malgré les supplications de cet homme, qui pleure de la même manière, comme lui avait pleuré auprès de son maître, il ne veut pas entendre, il ne veut pas prendre patience. Il le traîne immédiatement jusqu'à la prison. Il devra y rester jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ce qui sous-entend qu'il va devoir certainement agir ou faire agir des amis autour de lui. Ce qui est dramatique dans cette histoire, ce n'est pas la situation de cet homme, mais la réaction du serviteur que nous condamnons sans réfléchir. Quelle honte! Cette réaction disproportionnée fait réagir des témoins qui étaient là. Et heureusement qu'ils étaient là, ces témoins. Jésus les fait venir. Ils ont vu ce qui s'est passé auprès du maître. Ils voient ce qui se passe là maintenant dans la rue, quelques heures seulement après. Et ils vont, parce qu'ils sont choqués et abasourdis par l'affaire, le dénoncer au maître. On pourrait dire, oh, c'est pas des amis, ça. Mais c'est bien qu'il l'ait fait. Et Jésus dit les choses ainsi. Alors, retour auprès du maître qui revient sur sa décision à cause de sa situation qui était scandaleuse. Irrité, il le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il paye toute sa dette. Ça veut dire que vis-à-vis des sommes, que cet homme sera livré au bourreau jusqu'à la fin de ses jours. Mathématiquement parlant, on va dire. Mais on est dans une parabole. C'est spirituel qu'il faut juger les choses. Quelque part, on va dire, justice est faite. Il n'a finalement que ce qu'il mérite. Il l'a bien cherché, après tout. Et c'est cela que Jésus va conclure cette histoire par cette application surprenante. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Avec cette parole, en conclusion, il nous renvoie l'image du fait que nous pouvons être à la place de ce mauvais homme qui a scandaleusement réagi si nous ne pardonnons pas. car nous pouvons nous trouver spirituellement dans la même situation que lui. Alors on pourrait penser à première vue, et par rapport à la parole de Jésus, que si je ne pardonne pas aux autres, Dieu va me retirer mon salut et mon pardon de fait et mon salut avec, puisque c'est par le pardon que je suis né à la foi et que j'ai le salut. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Sinon, ce serait mon pardon par mes œuvres. Et là, on est à l'opposé de l'esprit de l'Évangile. Mon pardon ne serait plus une grâce, mais un dû, si je devais et s'il était proportionnel au pardon que j'accorde aux autres. Si donc notre salut éternel n'est pas en cause, que veut dire Jésus lorsqu'il parle de cela ? Eh bien que Dieu sera irrité envers moi et son esprit sera attristé. Être livré au bourreau et donc apprendre dans un sens spirituel. C'est-à-dire que ma conscience sera torturée aussi longtemps que je n'aurai pas pardonné. Surtout si j'ai bénéficié justement du pardon de Dieu. Ce que le premier serviteur, enfin le serviteur avait eu par la remise de sa dette. Luther, que nous avons déjà cité, dit ceci par rapport à ce texte de Jésus: « Prends garde, ô mortel, ce n'est pas celui qui t'offense qui te fait du tort, toi-même en ne pardonnant pas, tu te fais un tort que le monde entier en pourrait te causer. » Et c'est vrai. Et j'ai envie de dire, il faut que ce soit ainsi. Car comme nous l'avons lu dans un texte, le premier que j'ai cité d'Éphésiens, nous attristons le Saint-Esprit par des situations, par notre langue, par nos comportements, qui font qu'il y a un problème de relation avec une abeille. Au lieu de piquer, de montrer mon dard, Dieu me demande de te pardonner. Sinon, ma conscience sera torturée, et c'est bien qu'elle le soit. Le Saint-Esprit attristé change, ou en tout cas nous fait changer d'attitude à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que nous comprenions ce que Dieu veut que nous fassions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine du pardon, ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est un impératif. Le diable œuvre à nous faire oublier trop vite cet état de fait que le serviteur avait oublié quelques heures plus tard, que c'est du pardon que nous sommes nés à la vie nouvelle. C'est encore du pardon que nous grandissons en sagesse spirituelle. Parce que j'ai confessé à Christ ce jour-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a été dit par le témoignage. Oui, mais je ne suis pas devenu parfait pour autant. Je n'ai pas reçu 25 auréoles sur la tête, avec 25 possibilités de faire mal. Non, à chaque fois qu'après être né de nouveau, je suis tombé dans le péché, je suis allé et je dois aller demander pardon à Christ. Parce qu'au fond de mon cœur, l'Esprit me dit « Tu as commis un péché ». Donc c'est une habitude que l'on a pris et que l'on doit prendre. Même David, dans un psaume, écrit « Pardonne-moi les péchés que j'ignore », tellement il avait la crainte de Dieu. L'Esprit me convainc, l'Esprit m'en donne et m'en met en avant devant mes yeux. Donc là, je suis inexcusable, mais même ce que je ne sais pas, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-les. De peur que je ne sois pas digne d'être ton enfant. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit dans la prière du Notre Père que l'on ne dit pas dans nos milieux évangéliques comme une vaine redite, c'est vrai. Mais quand ça devient effectivement une vaine redite, on ne prend plus conscience de la puissance et de la force des mots. Quand par exemple Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Ça veut dire que Jésus peut nous renvoyer quelque part à l'affaire en disant « Hé, tu n'as pas pardonné, donc je ne te pardonne pas non plus ». C'est ce que Jésus dira en conclusion de la prière du Notre Père dans l'évangile de Matthieu. Après l'Amen, il revient sur cette parole du pardon Si vous ne pardonnez, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il y a quand même une condition. Vous entrez dans cette dimension parce que je vous ai pardonné. Donc vous, à votre tour, vous devez faire et accorder ce pardon. Le pardon dont nous avons bénéficié en Jésus-Christ s'accompagne donc d'une responsabilité. Il me dégage, certes, du fait que je suis à nouveau réconcilié avec Christ, car ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc si le péché est pardonné, il n'y a plus de séparation. Je suis donc réconcilié avec Christ. Mais cette réconciliation amène une responsabilité, celle qui est bien montrée dans la parabole, de pouvoir à notre tour faire comme on nous a fait. C'est Paul qui le dit dans un texte, « Faites aux autres ce qu'on voudrait qu'ils vous fassent. » Ce que Jésus a fait pour nous a été tellement libérateur, ô combien nous devons comprendre et pouvons imaginer sans problème combien c'est libérateur à une autre personne aussi dans le domaine horizontal des abeilles de recevoir le pardon. Et 70 fois cette fois s'il le faut. Et même dans des cas extrêmes, on a parlé d'Étienne qui, étant lapidé, dit à ses bourreaux ou à Seigneur en priant, ne leur impute pas ce péché. Au lieu de crier à l'injustice, et il aurait pu, Étienne, il demande à Dieu de leur pardonner. Jésus, bien évidemment, sur la croix, donnera cette parole forte et extraordinaire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est peut-être suite à cette parole qu'un des deux brigands sur la croix va revenir sur ses sentiments de départ, qui étaient des sentiments de violence, d'injustice, et de dire à Jésus, « Mais sauve-toi et sauve-nous aussi, prends-nous avec toi. » De dire tout d'un coup à Jésus, « Pour nous c'est justice, en tout cas pour moi c'est justice, ce sont mes péchés qui m'ont mis sur la croix. » Parce que je suis coupable devant Dieu. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu es injuste. Et c'est à ce moment-là que Jésus dira au brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Une chose et une parole tellement simple. Tu as parlé de simplicité tout à l'heure par rapport à ta conversion. Hein? La nuit, le matin, j'ai été transformé. Quelle transformation pour cet homme, ce brigand qui réalise son péché en disant « Jésus, c'est justice ». Et qui en même temps reçoit la libération d'être avec Jésus pour l'éternité. Père, pardonne-leur, c'est ce qui touche. Le pardon non seulement nous libère, mais en plus il est un témoignage de l'amour et de la puissance de Christ autour de nous. Comment tu pardonnes? Alors je peux comprendre des personnes, et au départ on peut être frappé d'entendre ça en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on voit dans les informations, au sortir des tribunaux, des parents dont la fille a été violée ou dont le fils a été tué, de dire « jamais je pardonnerai ». Je le comprends. Je le comprends. Et je ne juge absolument pas ces paroles. Parce que même en tant qu'enfant de Dieu, si on touche à mes enfants, comment je réagirai? On a touché à une de mes filles de façon violente, il y a quelques années. Et j'ai eu des réactions. Donc j'imagine et je comprends, la chair est touchée, le sang est touché. Mais la grâce de Dieu nous permet de passer par-dessus. Et nous n'avons pas à dire à tel ou tel, tu dois, il te faut. Non. Nous devons déjà prier pour ces personnes, pour que la guérison puisse avoir lieu. Mais la guérison, je suis convaincu, passe par le pardon, qu'on le veuille ou non. Et à un moment donné, ces choses devront venir. C'est une puissance qui libère. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons d'autant plus cette responsabilité, j'y reviens. Je pense à ce qui s'est passé il y a bien des années, lorsque, à l'époque, le pape Jean-Paul II avait eu une tentative d'assassinat sur lui, vous vous souvenez? Ce Turc qui lui avait tiré dessus. Il a été le voir en prison et il lui a accordé son pardon. Bravo! Je suis pas d'accord avec la doctrine du catholicisme, on est d'accord. C'est pas ça le problème. L'individu lui-même a montré quelque chose, a montré la puissance du pardon. Tout catholique qu'il était. Qu'importe, pape ou pas. Il en a montré un exemple en tout cas. J'ai trouvé fort à ce moment-là. Je dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? Pasteur, évangélique, attaché à l'écriture? Ça m'avait frappé à l'époque. Cette parabole nous fait donc saisir que pardonner à un frère le péché qu'il a commis à mon égard, c'est comme annuler une dette qu'il me doit. Le premier serviteur avait une dette avec le roi qui représente Dieu dans la parabole. Et la Bible considère le péché comme une dette envers Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'il est impossible d'enlever cette dette. Le péché, personne ne peut de lui-même, par ses œuvres, par sa volonté, l'ôter et ainsi être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible. C'est ce que montre la parabole. 25 millions d'euros. Donc nous naissons avec cette dette sur le dos. D'ailleurs, on peut imaginer, serviteur, hein, s'il était mort, c'est ses enfants qui auraient dû payer. Y était-il pour quelque chose? On le voit dans la législation aujourd'hui. Hein? Combien de personnes, sans le dire à la famille, se sont endettées, une fois qu'ils sont morts, on arrive chez le notaire, on croit qu'on va retourner avec un beau chèque, et puis au final on nous dit, non, vous devez. Oh, c'est pas pareil. Je dois à Dieu, parce que je suis, et tu l'as dit dans ton témoignage, pécheur de nature. Pour dire, oui, mais je suis pour rien, moi, après tout. Oh, je suis pour rien. Regardez un petit bébé déjà qui naît, hein, si c'est déjà un saint dans son berceau. On ne lui a pas inculqué quoi que ce soit. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, dans le jardin d'Éden, franchement, face à la tentation de Satan? Hein? Oui, c'est bien beau de dire aujourd'hui, non, non, mais moi, je n'aurais pas pris le fruit défendu. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de parfait. Non, cette dette est là. Seigneur, je reconnais, c'est ce que nous devons dire, que je suis pécheur. Je sais que ma dette est impossible, énorme. Je ne peux pas la payer. Et le Seigneur se montre toujours disposé à faire grâce aux pécheurs. C'est ce qui ouvre la porte au royaume de Dieu. Ce n'est que cela qui ouvre la porte au royaume de Dieu. Quelqu'un qui a été contre Dieu toute sa vie, qui se sent lit de mort, à l'exemple du brigand sur la croix, va s'écrier et dire à Jésus, pardonne-moi mon péché, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, et au ciel pour l'éternité, quand bien même il a été un mécréant toute sa vie. C'est pourquoi l'Écriture ne nous invite pas à sentir que nous sommes pardonnés, mais à le croire. Cette foi est opposé au sentiment, et ça je voudrais bien que nous le comprenions. La foi croit ce que Dieu dit et s'en tient à sa parole, qui est une déclaration de Dieu, tandis que le sentiment, lui, a son assise dans le cœur de l'homme qui est, lui, trompeur. Je n'ai pas à sentir le pardon de Dieu, je dois croire au pardon de Dieu. Et il y a des chrétiens comme l'assurance du salut, par exemple. Je ne sais pas si j'ai l'assurance de mon salut. Je suis désolé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as l'assurance du salut. De douter cela, c'est que tu doutes de la parole même de Dieu qui te dit, tu es sauvé. Ce que disait Paul au geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je crois, eh bien tu es sauvé. Et puis, tergiverse plus. Prends-le. Parce que croire en Dieu, ok. Mais croire Dieu, c'est pas la même chose. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais croire ce que Dieu dit, c'est autre chose. Et nous avons cru ce que Dieu disait lorsque nous avons donné notre vie à lui. Donc je suis pardonné si je lui ai donné ma vie, si je lui dis et si je lui demande pardon. Je le crois et je le prends. Je n'attends pas de sentiments, même si les sentiments sont là quelque part. Oui, il y a une libération. Oui, il y a une paix. Oui, il y a une sérénité. C'est vrai. Mais je ne dois pas attendre ces sentiments. Je dois d'abord croire. C'est l'idée, je disais tout à l'heure, la pensée, oh, je pardonnerai si je le sens. Alors, avant de conclure, je vous ferai une dernière remarque. Dieu, connaissant notre nature oublieuse, et particulièrement dans ce domaine-là, comme le serviteur qui a oublié qu'il avait été, sa dette avait été remise, a institué ce que nous avons partagé, la Sainte-Cène. Ce n'est pas pour passer le temps que la Sainte-Cène a été instituée par le Seigneur et que Paul nous demande de la faire. Non, c'est de nous rappeler à quel prix nous avons été pardonnés et comment la dette du péché a été enlevée. Parce que sinon, nous serions comme le serviteur dans la parabole, si nous n'avions pas régulièrement la Sainte-Cène. Nous oublierions très vite l'amour et le sacrifice de Jésus. Donc, les relations horizontales seraient bien perturbées. D'autant plus et encore plus. Mais à chaque fois que je prends la Sainte-Cène, je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. Et ça me permet de me dire, j'ai une responsabilité vis-à-vis des autres en tant qu'enfant de Dieu, à pardonner à mon tour. Toutes les fois que cela est nécessaire. Paul le dit, Christ étant en Christ, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme lui-même, à travers Jésus, nous a réconciliés avec le Père. Alors pour conclure, je vais simplement faire parler la parole de Dieu à nouveau, parce que c'est elle qui a l'autorité. Et je vous donne quelques versets simplement. S'il est possible, autant que cela dépend de nous ou de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, et le pardon est une manifestation du bien. Mais regardez bien, autant que cela dépend de vous. Si la personne à qui vous allez pour accorder un pardon ne veut pas vous voir, vous êtes dégagé de la responsabilité. On ne peut pas obliger une personne à accepter le pardon que vous voulez lui accorder. Donc, mais vous, votre responsabilité, c'est cela, jusqu'à ce que. Encore ce texte, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et c'est un combat, je le rappelle, parce que Satan ne veut pas que nous pardonnions. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Hein, on est dans le même sujet de la parabole. Et puis enfin, ce dernier verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le non-pardon produit des amertumes et des rejetons de ce type-là. Et ça pollue complètement la relation dans la ruche et des abeilles entre elles. Voilà, je voulais juste partager cela sur ce troisième sujet. Que nous puissions nous rappeler, par la grâce de Dieu, de tout ce que le Seigneur nous a dit. Et que je prie pour que la ruche du zeste que vous formez, voilà, puisse s'épanouir, puisse faire du miel, de la douceur. Et que cette douceur soit non pas vendue dans un magasin, mais qu'elle soit distribuée, n'est-ce pas, aux portes du zeste et dans ses environs, pour que vous fassiez goûter cette douceur qui est en vous et que vous vivez. Même s'il y aura des combats encore demain, c'est évident. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ce temps de partage. Tu veux que ta parole pénètre dans notre cœur, Seigneur, et elle a été citée. Elle ne reviendra pas à toi sans avoir produit ses effets, parce que tu le promets et tu le dis. Qu'il puisse y avoir, Seigneur, aujourd'hui, les effets escomptés dans la vie d'un tel. Seigneur, je te prie pour cette église, cette communauté du Zèche, je te demande de la bénir, de la renouveler. De lui accorder, Seigneur, beaucoup de joie, que toutes ces abeilles que tu y as placées puissent se mettre à l'œuvre ou continuer de l'être, ne se découragent pas et produisent ce que tu attends, ces fruits, cette lumière dans ce monde des ténèbres. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu vas faire, nous le croyons et nous te le demandons en Jésus. Amen.
Amen.
Je n'ai pas pensé de vous dire, j'ai mis une feuille ici, si vous souhaitez recevoir ma lettre de nouvelles pour l'intercession en particulier, n'hésitez pas, voilà, par internet ou par courrier, je peux vous l'envoyer. Ça permet d'avoir un lien entre nous aussi. Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi, Frédéric. Je crois que tu es encore avec nous jusque...
Juste un peu l'après-midi, là, oui.
Oui, très bien. Ok, on aura l'occasion tout à l'heure, pendant le repas, d'exprimer encore notre reconnaissance au Seigneur. Merci de nous partager ta vie, de nous partager ce que tu as reçu du Seigneur. Et on apprécie ta personne et aussi le service que Dieu t'a confié. Il y a des abeilles, mais il y a aussi... Oui, ce sont des abeilles, oui. Des petites abeilles. Aussi. Sont-elles dans la ruche? Ça nous appartient pas. On attend des petites abeilles. Donc le culte n'est pas fini, hein?
Non, c'est pas moi.
On attend encore. Et au niveau des diapos, est-ce que vous allez projeter des choses?
Non, mais
Timothée, il va... Timothée, d'accord. Très bien.
Dieu t'aime, peu importe d'où tu viens. Dieu t'aime, peu importe ta couleur. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime si tu es petit et gros. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime si tu es grand et très maigre. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime si tu as un grand nez. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime si tu as de grandes oreilles. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime. Tu as des cheveux très lisses. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime si tu as des cheveux bien bouclés. Dieu t'aime comme tu es. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas du tout. C'est...
Le péché!
Le péché, c'est tout ce qui est mal. Ce sont les mauvaises choses contre les gens, contre nous-mêmes ou contre Dieu. Le péché nous rend sales et condamnés. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour être puni à ta place. Il a donné sa vie pour qu'on soit pardonné de nos fautes. Si tu crois en Jésus et t'engages à vivre pour lui, il pardonne tes péchés et tu es sauvé. Parce que...
Je t'aime comme tu es.
C'est chouette hein, d'avoir des enfants avec nous. Ils peuvent nous enseigner des réalités spirituelles, des paraboles, hein, comme aussi, c'est là, il me semble. Voilà, notre culte arrive bientôt à sa fin. J'aimerais qu'on termine en chantant deux chants. Nous faisons partie de la ruche du Seigneur. Nous faisons partie de la famille de Dieu, pardon. Et puis, la chaîne d'amour. Nous sommes unis par des liens d'amour. Tu peux me donner le numéro de Jeanne parce que je ne trouve pas la partition. C'est quel numéro ? La famille. 218 ou pas ? 218. Famille, car Dieu nous lie par une chaîne d'amour. Peut-être qu'on pourrait se prendre par là, parce qu'on connaît les paroles, pas besoin de regarder l'écran, c'est facile, mais on va quand même projeter les paroles, et si on peut se prendre par la main et faire une chaîne d'amour. Voilà, il y a même de la place pour tout le monde, pour que tout le monde ait sa place dans cette chaîne. Voilà, et la chaîne là, il peut y avoir aussi quelque part l'alvéole de, comment tu as dit ça, du miel spirituel, donc le pardon que nous avons reçu du Seigneur, nous voulons aussi le vivre entre nous, en se donnant la main, c'est aussi pour proclamer tout cela, et aussi en se donnant la main, c'est aussi quelque part pour faire barrière à la mouche qui peut venir sur le miel. Veillons à notre langue. Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Il ne faut pas que je me mette à côté des accords. Je pense que c'est ça. Nous sommes unis.
Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours par une chaîne d'amour. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours par une chaîne d'amour.
Nous voulons terminer juste en disant la grâce et la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Le culte est terminé, mais notre communion fraternelle continue, le repas dans 15 minutes, et puis Edson nous dira la suite du programme. Je pense que c'est toi qui es le modérateur de l'après-midi. Ok. Puis-je te demander de dire la bénédiction du Seigneur sur nous, s'il te plaît, frère. Voilà, merci.
Seigneur, nous te remercions pour ta bonté vers nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie des frères et sœurs qui sont là. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous as parlé, nous a touché, que tu as ouvert nos yeux. Merci, Seigneur, que chaque chose nous puissions vraiment rentrer dans nos cœurs, que nous puissions marcher selon ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, toute la journée, toutes les choses que nous allons faire, même l'après-midi, toute l'activité, que tu sois vraiment à côté de nous. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour Seigneur. Nous te louons, nous te remercions au nom de Jésus Christ. Amen.
Amen. Bon dimanche, bon appétit. Merci beaucoup, jeune homme. Notre technicien.